Bienvenue chez les Papous de France Culture. Françoise Tressart, la belle équipe et le menu du jour. De la publi-papoucité aux échanges mi-figue entre la Tour Eiffel et l'école militaire. Des SMS de Napoléon aux chiens et au roi de Jacques Vallée, Patrice Minet, Dominique Muller.
C'est curieux parce qu'on dit le roi des cons mais la reine des pommes.
Exactement.
Oui, oui. On ne dit pas le roi des pommes par exemple.
Ni la reine des connes.
La reine des connes, si eux, ça me serait.
J'ai pas une affaire personnelle. Nous ferons Gishi Gishi ensuite, une onomatopée japonaise proposée à trois papous par Véronique Brindeau. Puis viendront l'exercice d'admiration de Jean-Bernard Pouy, une histoire de gare et l'inventaire des choses qu'on se sent obligé de faire, Lucas Fournier.
Moi, je me sens obligé de ne jamais être enthousiaste, comme si quelque chose me retenait.
J'ai remarqué ça.
Mais je ne sais pas quoi.
Tout un programme à retrouver ensuite sur franceculture.fr pour le podcast pendant un an, pour vos collections et pour nous emmener partout avec vous. Merci de votre fidélité à notre récré littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h59 et c'est le moment de la pub, autrement nommée par un mot valise, pas toujours facile à prononcer pour certains, publi-papoucité. Une proposition de Lucas Fournier, avec des rôles pour Hervé Le Tellier, Patrice Caumont et Jeanne Carillon qui vocalise sur Aïda.
Ils ont résisté à toutes les épreuves, les naufrages, les tempêtes, les ouragans, la foudre, les pirates, les moussons, les tsunamis.
Ils ont eu soif, ils ont eu faim, ils ont eu froid, ils ont eu sommeil, ils ont eu mal, ils ont eu chaud. Ils ont failli abandonner.
Ils ont combattu les serpents, les scarabées, les moustiques, la malaria, la tourista, les blattes, les requins, le chikungunya, l'ennui.
Ils ont tenu sans wifi, sans ADSL, sans smartphone.
Ce qu'ils ont fait, aucune bête ne l'a jamais fait.
Tous les autres ont lâché, eux, jamais.
Ils ne sont plus que deux, lost in the ocean. Ils ont été amis comme les deux doigts de la main. Aujourd'hui, ils sont prêts pour la dernière bataille, The Battle. Un des deux sortira vainqueur de cette île perdue au milieu de l'océan et la lutte sera sans merci.
Lui, c'est Robinson. Il est agriculteur au Brésil, il est anglais. Vendredi est un super compétiteur, même moi aussi. Moi, j'ai ma Bible et mon couteau. On ne se fera pas de cadeaux.
Ils ne se feront pas de cadeaux.
Lui, c'est Vendredi. Il est jeune, il est indigène. Robinson et moi, on a des liens super forts. Mais en finale, on n'a pas la place de faire du sentiment.
Ils ne se feront pas de sentiment.
Alors, Robinson ou Vendredi?
Qui sera le survivant?
Who will survive?
Réponse ce soir dans le dernier chapitre de Robinson Crusoe, la série culte, dernière saison de Daniel Defoe.
Un chapitre à vivre sans modération.
Et si au bout de l'aventure, il y avait une autre aventure?
Robinson Crusoe, dernier chapitre, ce soir.
Stop, Jeanne, stop, stop, stop. Pour le jeu des épistoliers en piste, Jacques Jouet, Dominique Muller et Patrice Minet. Rares sont les gens qui, à notre époque, envoient encore des lettres manuscrites. Les facteurs ne déposent plus que les factures, les impôts, la pub dans les boîtes aux lettres. Mais au papou, la lettre a tous les honneurs. Alors, imaginez un personnage qui, pour une certaine raison, souhaite obtenir quelque chose d'une tierce personne et pourtant refuse de lui écrire directement à elle, préférant passer par un intermédiaire censé transmettre son désir. Mais allez savoir pourquoi. Les go-between ont parfois un intérêt au détournement. C'est le principe du jeu des drôles d'épistoliers. Première lettre par Jacques Jouet. Jacques, vous êtes romancier, donc forcément imaginatif. Je suis certaine que l'histoire va être surprenante. Vous êtes qui?
La Tour Eiffel.
Maintenant que vous le dites. Hein. Il y a un petit air quand même.
Ah oui, petite vieille ferraille. Ouais.
Tout de suite les compliments. Et elle écrit à qui la Tour Eiffel ?
Eh bien, la Tour Eiffel écrit à une collègue qui est juste en face, qui est l'école militaire.
Ah oui, bien sûr.
Monsieur le directeur d'école, puisque oui. C'est une école, oui. Apparemment, mon général, à tout hasard. Je pense que c'est un général qui doit diriger l'école militaire. Peut-être avez-vous entendu parler de moi. Je suis votre voisine. Mettez-vous à la fenêtre, vous ne pouvez pas me rater. Voilà, je suis celle qui clignote. Beau temps, n'est-ce pas, pour la saison ? Mais trêve de banalité. J'irai droit au but pour vous dire ce qui m'amène, et je serai brève, car j'imagine que votre temps est compté. Comme vos galons, et que vous le devez tout entier, votre temps, à vos jeunes recrues que j'aperçois de temps en temps apprendre le bel art du défilé, de la tactique, de la stratégie, des armes plus ou moins conventionnelles et des décorations. Si je n'irais pas par quatre chemins et n'userais d'aucune circonvolution et retard à l'allumage, c'est que j'imagine que c'est votre façon d'être et de préférer les solliciteurs. Car j'en suis un, j'ai une demande à vous faire.
On entre dans le cœur du sujet.
Eh oui.
Sans doute n'ignorez-vous pas que si votre école constitue un paysage charmant au bout du bien nommé Champ de Mars, de l'autre côté, c'est une autre paire de manches. Autant vous me semblez représenter brièvement l'avenir et la nécessaire adaptabilité à la dureté des temps, autant le trocadéro de l'autre côté est d'un pâteux, d'un figé, d'un immobilisme, d'une immutabilité proprement consternante. Certes, me direz-vous, je pourrais m'en contrefiche et regarder au-dessus, vers la Défense ou vers Montmartre.
Oui, je vous le dirai.
Mais je m'attendais à ce que vous me disiez. Mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Et ce sont deux phrases. Un certain Paul Valéry, de l'Institut, je crois, les a pondus, il y a de ça un bail. Tout homme crée sans le savoir, comme il respire, mais l'artiste sans créer, son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie. Ça, c'est sur le fronton du côté de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. De l'autre côté, côté anciennement musée de l'homme, il dépend de celui qui passe, que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas sans désir. Je ne veux pas dire qu'elles ne soient pas sensées et fortes, ces phrases. Mais tous les jours, pitié. Les lire tous les jours, les ressasser, les ruminer. Alors je voudrais vous suggérer, mon général, d'intervenir. Pourriez-vous user de votre grade et de votre autorité naturelle, que vous avez su probablement cultiver, car dans le cas contraire, comment expliquer que vous soyez parvenu à la force du glaive à ce poste de responsabilité, pour convaincre le palais de Chaillot de les amener, les démonter, les décrocher, ces phrases, et de les remplacer par d'autres, de votre choix, ou du sien, je n'ai pas vraiment de préférence, tout ce qui m'intéresse en l'occurrence étant le changement, celui auquel j'aspire, pas tout seul, car soyez bien convaincu que les 7 millions de visiteurs annuels de mon élégante carcasse signent des deux mains à mes côtés cette requête. Voilà, mon général, tout est dit. En espérant avoir été suffisamment éloquent, je vous prie d'agréer l'expression de ma considération patriotique. La Tour Eiffel.
Vous comprenez l'exaspération de la Tour Eiffel, vous, Hervé Le Tellier ? Parce qu'elles sont belles, ces phrases, oui. Quand même.
Apparemment, c'est surtout le pilier ouest qui parle. C'est ça qui m'étonne.
Dominique Muller, donc vous êtes le général, la générale.
Je suis l'école militaire en personne.
Bah voyons.
Oui.
Et alors, vous recevez cette lettre ?
Je crée au Trocadéro, bah oui, forcément.
Un peu étonné ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Un peu lassé.
Elle écrit souvent. Bah oui, ah oui, d'accord. Ouais.
Cher ami Trocadéro, d'habitude j'appelle trop, mais là c'est comme c'est une lettre un peu officielle.
Ouais. Et ce sera Patrice Minet le Trocadéro,
oui, je pense.
Oui. Oui. C'est moi. Oui.
Et voilà, ça recommence. Je reçois une énième sollicitation de notre bonne vieille Tour Eiffel, qui n'a vraiment plus rien d'autre à faire que de regarder les rues à la jumelle, sa façon à elle d'avoir une tour jumelle. Pour se plaindre de son voisinage. Sa confusion ne s'arrange pas, je le constate à son style, adaptabilité à la dureté des temps, pour vous dire, tout droit inspiré de la prose ministérielle dont elle rêve. Notre grande girafe est un complexe. Visitée par des millions d'étrangers, elle se veut plus parisienne que nous tous qui n'avons pas besoin de nous pousser du col pour être qui nous sommes. Voilà pourquoi, une fois de plus, elle s'en prend aux inscriptions gravées sur vos flancs, vexée de n'avoir pas de mur en dur ou faire trôner les phrases qui vous honorent. Ces mots de Valérie, qui diable s'en soucie, il faut vraiment chercher la petite bête pour lever le nez, les lire, les ruminer, les comprendre, s'en imprégner, que sais-je. Naturellement, je ne vous demanderai pas de vous en défaire. C'est ce que la tour espère, ignorant toute de fer et de boulon, le proverbe fameux de Haussmann, « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai ma gloire ». En revanche, je sais que sur votre esplanade se tiennent bien souvent des soirées, des fêtes, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'événementiel. Si vous pouviez, pour la calmer, organiser des accrochages éphémères, il me semble que cela tarirait sa vindicte épistolaire. Plus que le contenu de ces lettres, c'est leur envoi qui gêne. À chaque fois, je reçois un bout de fer, quelques boulons sur le crâne, et c'est très pénible, croyez-moi. Il me semble que le mot qui l'angoisse et l'attire à la fois est celui de « désir ». Ami n'entre pas sans désir. Comment cette phrase ne titillerait-elle pas une femme vers qui les touristes se rendent par devoir, par obligation, pour la simple raison qu'elle est incluse dans le circuit de Paris? La pauvre, en un sens, je la comprends. Elle veut qu'on vienne à elle de son propre chef, de sa propre volonté, et non vomie par l'un des autocars qui s'agglutinent par centaines à ses pieds. Donc, pour régler le problème, outre les banderoles éphémères qui chanteraient sa beauté, Tour Eiffel, Désir, etc., je laisse à vos organisateurs d'événements le soin de concocter quelques niaiseries publicitaires bien senties, je vous serai reconnaissante de bien vouloir accepter la totalité du parking des autocars sur votre rive, devant votre parvis, ce qui ne pourra que plaire aux marchands ambulants qui le hantent. Ainsi, la Tour Eiffel, sans personne à ses pieds, apprendra ce qu'est la solitude. À mon avis, cela la rendra plus modeste et elle n'aura plus l'outrecuidance de réclamer encore et encore la modification de notre Paris. Ici, un détournement de rue, là, l'abaissement des immeubles et maintenant l'effacement de Paul Valéry. Vous ai-je dit qu'elle exigeait que le Louvre soit débaptisé en musée Eiffel ? Notre collègue a désamorcé la chose en envoyant la réplique de la tour au Japon, ce qui l'a contenté. Tenez-moi au courant de vos décisions, je ne voudrais pas en arriver à faire donner du canon sur cette pauvre vieille chose, notre amie malgré tout, l'école militaire.
C'est une très belle lettre. Puis il y a plein d'idées dedans. Évidemment, elle ne vous traite pas très bien, la vieille Tour Eiffel.
Bah, ça commence à bien faire, hein, vous prenez.
La prochaine fois, j'écrirai d'abord au palais de Chaillot.
Oui.
Mais à propos de l'école militaire.
Ah oui,
c'est ça. Vous voyez, c'est les gens qui ont toujours un truc.
Mais elle est aigrie, quoi. Hein, jamais contente. Puis qu'est-ce qu'elle a contre Paul Valéry, après tout,
hein? On va voir.
Mais moi, je me tourne d'abord vers Monsieur Trocadéro, c'est Patrice Minet qui reçoit cette lettre de l'école militaire.
Ce n'est pas une lettre qui l'étonne beaucoup parce que, effectivement, la Tour Eiffel est une raseuse.
Ah oui. Hein?
Ah oui.
Oui.
Oui, elle nous pilonne de ses lettres.
Et à chaque fois, ça passe par vous aussi.
Ben, il faut trouver des compromis. On est dans la place, on ne peut pas en sortir.
Ouais.
Donc, on est forcé de trouver des solutions pour l'apaiser momentanément.
Et vous écrivez à qui alors?
Eh bien, j'écris à la Tour Eiffel.
Ah, directement.
Oui.
Ah oui.
Qui a confiance en moi.
Ah bon?
Oui, et elle a raison. Cher grande amie.
Ça commence très mal.
Oui. C'est une question de taille, quoi.
Comme le disait Épictète à Paul Valéry, occupe-toi de ce qui dépend de toi et pour le reste, laisse tomber. Nous savons tous les deux le respect que nous devons aux grands poètes et à leurs œuvres. Ils ont fait la République, ils ont fait la France, qu'ils reposent en paix au Panthéon si possible. Néanmoins, ils ont laissé des traces et parfois, par leur puissance d'évocation, par leur profondeur, ces traces nous bouche l'avenir. Il y a un côté Malraux.
C'est beau, ah, nous bouche l'avenir. Hein.
Tout ça vole très haut, si je veux dire, pour la Tour Eiffel.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant. Hein. C'est le mot. Que faire alors pour dissiper ce fond culturel un peu tannant par sa monotonie répétitive? Perdre la mémoire, en tant que monument historique, cela nous est interdit. Organiser des manifestations pour faire céder le ministère des Affaires culturelles et abroger définitivement les mots du poète, notre respect du passé et la représentation symbolique qui sont nos raisons de vivre, sont un frein trop définitif pour s'engager dans cette voie. Mmh. Et puis...
Quelle langue de bois, mais c'est pas possible.
Oui,
c'est très officiel.
Ça, le bois, la Tour Eiffel, elle connaît pas, hein, ça c'est sûr.
Et puis, vous nous voyez défiler sur le champ de Mars, la gare Saint-Lazare en tête de cortège, suivie de la coupole, des principaux ponts, et pourquoi pas le Louvre et le Grand Palais pour fermer la marche. Nous n'avons plus l'âge, cher grand ami. Nous serions encore étudiants ou en chantier, je ne dis pas. Mais là, tout ce qu'on y gagnerait serait de fissurer désagréablement nos colonnes. Alors, quoi ? Renoncer ? Comme souvent. La solution se trouve au cœur du problème. Plutôt que de lire quotidiennement les messages de Paul V, tournez votre regard vers un autre horizon. Vous avez quatre faces. Trois d'entre elles sont orientées vers l'extérieur, vers la liberté. Vous n'avez qu'à choisir. Et si c'est trop difficile, vrillez. En architecture, la torsion dans le bâtiment donne encore plus de solidité à l'édifice. Et quel succès auprès des touristes. Une tour en tire-bouchon, ça c'est moderne. Ça c'est Paris. Affectueusement, votre troc.
Ça c'est une idée, non ?
Oui.
Ah oui, ce qu'elle en pense, la chère vieille tour.
Oh ben, la chère vieille tour, eh ben, voilà ce qu'elle va faire. Elle va projeter des phrases de Pierre Dac, la nuit, sur la façade.
Avec son laser.
Avec son laser.
Vous êtes dans le quartier, Nora Velletelli ?
Oui, oui, j'aime bien ce mot qui est marqué maintenant en permanence au Trocadéro, qui est « Tu as ton avenir devant toi et tu l'auras derrière toi à chaque fois que tu te retourneras. » Je ne sais pas qui c'est, mais c'est beau.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mélisent du vent furibond. Rebrousse les bois, retousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes. Le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sous le pont des arts, tu croises le vent fripon. Hey, prudence, prends garde à ton jupon.
Catherine Ringer, Le Vent.
Des papous dans la tête, vous les écoutez sur France Culture.
Oui.
Et oui, et si on parlait du prochain enregistrement des papous en public ? Vous notez, je vous dis tout, le lieu, Marseille, Théâtre de la Criée, la date, dimanche matin 15 novembre de 11h à 13h, 2 heures de récré littéraire avec nous. Ils seront du voyage avec moi, Dominique Muller, Lucas Fournier, Eva Almassi, Hervé Letellier, Violaine Schwartz et Serge Joncourt. Et vous êtes tous invités. L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Et des places, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la très grande salle de la Criée. Retrouvez tous les renseignements sur les papous à la Criée, dimanche 15 novembre à Marseille, à la page des papous du jour sur franceculture.fr, à la vie du club et sur Facebook, on en reparlera. Place au SMS. On peut tout faire par texto, dire qu'on aime, rompre, je sais, c'est pas très élégant, parler de la pluie, de politique, de rien, sans même attendre un texto en retour, on échange en raccourci. Plus besoin d'entendre une voix, ni même de se voir. Jean-Bernard Pouy, vous êtes, je crois, quelqu'un d'important. Accroché à votre mobile, vous construisez une histoire à coups de SMS. Vous êtes qui ?
Je suis Napoléon. Oui ? Lui-même, en 1815. Donc pas très loin de la fin, quand même.
Oui ?
Et j'envoie des SMS, je vous laisse deviner à qui.
On peut s'en douter un peu.
Parce que le premier SMS du 17 juin, oui, à 15h, commence par « T'es où ?» Alors, Blucher n'est pas très loin et tu devais être sur ses basques. Qu'est-ce que tu fous, Grouchy ? si tu t'amuses, avec tes 30 000 hommes, à titiller ce nul de Prussien de Tillmann, tu te trompes. Mon ordre, c'est de marcher sur Wavre, et vite, ça urge.
Oui.
17 juin, 20h. Grouchy, une de mes estafettes m'apprend que tu es en train de manger des fraises à Valin avec un foutu notaire du nom de Hollert. Alors que Blücher a fait la jonction avec Wellington. Si c'est vrai, t'es bon pour l'exil à Noirmoutier. 18 juin, 12h. Grouchy, tu n'es pas un Mont-Saint-Jean et il paraîtrait que t'as enfoncé les Prussiens pour les empêcher d'aller sur Bruxelles. Mais tu n'as que 30 000 hommes et 108 canons, ce n'est pas beaucoup. Mais ça représente mon aile droite. T'as intérêt à revenir sur Waterloo à toute vitesse, sinon les fraises, tu vas les bouffer par la racine. 18 juin, 15h. Grouchy, on t'attend toujours. On dit même que t'as disparu lors d'un tremblement de terre. N'importe quoi. Si tu n'arrives pas, c'est fichu. Je ne serai plus empereur, mais toi, tu ne seras plus maréchal, ni général, ni rien, et tu peux te mettre à la culture des fraises du côté de Plougastel et les revendre aux Anglais. 18 juin, 19h, t'es pas là, et donc tu ne verras pas ton empereur anéanti au milieu de son dernier carré. Il paraîtrait même que tu t'es barré avec toute ton armée en direction de Namur et donc de Reims. Traître infâme. En plus, tu te prends pour Jeanne d'Arc. Je m'en souviendrai, je vais m'occuper de ta légende. Et 19 juin, 14h, Grouchy, à partir de maintenant, je vais t'appeler le maréchal Grouchou. Tu comprendras plus tard, et oublie-moi, inutile de m'appeler pour me raconter n'importe quoi, l'histoire t'a déjà jugé.
Oh, il a jeté son portable, Napoléon, je suppose, non ?
On lui a piqué, je crois.
On poursuit la rédaction du Petit Rimailleur, notre dictionnaire papou en vers de la langue française, avec deux nouvelles pages consacrées aux substantifs « roi » et « chien » de rédacteurs Jacques Vallée et Patrice Minet, accompagnés de deux « contrôleurs » chargés de vérifier dans un dico classique si leurs définitions tiennent bien compte de toutes les acceptions des deux mots à l'étude. Ils peuvent bien sûr aussi donner leur avis sur la forme poétique choisie. Pourquoi pas, c'est le rôle aujourd'hui de Violaine Schwartz et de Jacques Jouet. Pour les dimanches du dictionnaire, je déclare la séance ouverte. Patrice Minet, on joue donc avec vous au Petit Rimailleur illustré et avec le mot « roi ».
Oui, j'ai eu cette chance de tomber sur le roi.
Oui, je sais que c'est copieux, le roi.
Ah oui.
Mais en même temps, c'est un beau mot. Et regardez, Violaine Schwartz, c'est tout de suite emparée du dictionnaire parce qu'elle veut vous contrôler. Vous êtes à la bonne page du roi,
oui,
Violaine.
Oui, je suis à la bonne page.
Et chez vous, Minet, ça se présente comment ? Des vers.
Voilà, ce sont des vers.
De quel métrage ?
Inégaux.
Oui.
Inégaux, je veux dire, dans la longueur.
Oui.
pas dans la qualité, non.
Bien sûr, évidemment.
Voilà, donc je me suis amusé avec ce mot. Les rois ne sont pas toujours très amusants. Donc,
vous avez fait une partie de cartes ?
Pas du tout.
Non ?
Non, en aucun cas. Non, j'ai plutôt été chercher ce roi qui m'échappait.
D'accord.
Pour dire ce qu'est le mot roi, il en faut un au minimum pour savoir ce que c'est, quoi. Un truc, un machin ou un homme. Il nous faut donc trouver un roi, c'est-à-dire n'importe qui, sauf moi. Prenez un président, un général d'armée, un calife, un tsar assermenté, un pacha et un pré-chevalier et mettez tout ça au panier. Vous n'avez pas là un seul roi, ne vous trompez pas de proie. Impossible de lui crier « Viens là !» Il ne se dérangera pas. Il connaît trop sa dynastie. Il faut le faire venir ici et pas manu militari. Bon, alors, prenez un lit à baldaquin et appâtez avec une reine. Hélas, c'est « return on investment » qui vient payer notre peine. On peut se demander pourquoi. Hein
« Return on investment » charge.
On peut se demander pourquoi. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Essayons le gigot flageolet.
Ouais.
Zut, un lion vient pour déjeuner. Ah, avançons à la médaille du mérite. Hélas, encore un échec, ça mérite. Pour le roi de Prusse, je travaille en voulant donner un sens. Est-il sûr que le résultat vaille d'ainsi chercher du bleu au sang ?
Agite. Ah oui, les rois le sang bleu, oui.
Ah oui.
Oui,
du fromage, oui.
Non, évidemment.
Merci, je me sens soutenu. Agitons le Saint Graal pour attirer le roi pêcheur. Un dauphin à la bouche en cœur vient nous dire « ça m'est égal ».
Ah, à toi, Baudelaire, ta carte blanche. Mais tes rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Cherchons encore qui n'est pas notre cousin, ou un borgne au royaume des aveugles, ou simplement un bleu un peu moyen, ou dans l'azur, voir s'il plane un grand aigle. Toujours rien, échec lamentable. Je n'aurais pas trouvé la fève dans ma galette. De tous, je serais donc le moins remarquable. Le roi des cons, en somme, ne vaut pas tripette.
Je pensais bien que vous chuteriez sur le roi des cons.
Ah bon,
hein. Je ne sais pas, parce que c'était tentant. Oui. Alors, tout est très concis, tout est très ciselé. Alors, c'est difficile à suivre. Difficile,
hein, tout a l'air d'y être, quand même.
Moi, j'ai l'impression
il y a aussi les échecs, il n'y a pas maths et pattes, mais enfin, il y a les échecs tout de même.
Enfin, j'ai suggéré parce que c'est vrai que c'est assez copieux.
C'est curieux parce qu'on dit le roi des cons, mais la reine des pommes.
Exactement.
Oui. Oui. On ne dit pas le roi des pommes, par exemple.
Ni la reine des connes.
Non plus, oui. Non, la reine des connes, si, ça arrive. C'est pas une affaire personnelle.
Quand elle déconne.
Est-ce qu'il y aurait une jolie citation sur le roi, Violaine?
Hugo a toujours été le roi des malins.
Voilà.
Qui a dit ça?
Peggy.
En parlant de Victor Hugo?
Oui.
C'est tout?
J'en ai une en mémoire de Baudelaire. Oui. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui de ses précepteurs méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Et les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un sourire de ce jeune squelette. Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu.
C'est magnifique.
C'est une longue citation, quand même.
Oui, c'est
une très longue citation.
Oui, c'est une très, très longue citation.
J'ai l'air en désolé.
Mais c'est de mémoire.
Après, c'est une anthologie, ça s'appelle.
Oui, voilà, exactement. Signé Jacques Vallée. Mais c'est à vous, figurez-vous. Et vous allez traiter le chien.
Oui, je vais prendre le chien.
Et vous serez contrôlé par Jacques Jouet. Jacques Jouet, vous êtes au chien.
Oui, je suis au chien. Et à la chienne.
À la chienne, les deux, évidemment. Ça se présente comment chez vous, Jacques Vallée?
J'ai fait un poème un peu tarte, un peu limauve, genre Sully Prudhomme, mais plutôt bienveillant pour le chien, parce que il y a beaucoup de termes quand même négatifs à propos du chien.
Très, très, très,
Alors, donc, j'ai voulu que ce soit léger.
Ouais.
Donc, j'ai fait des vers de 8 pieds.
L'octosyllabe est plus léger, vous pensez, Alexandrin, pour dire la douceur du chien.
Ça aurait été plus judicieux.
Oui,
enfin, faire à 4 pieds, oui.
4 pattes, oui.
Non, j'en tire. Bien sûr, j'évoque aussi des côtés noirs du chien, mais je suis bienveillant.
D'accord, on vous écoute.
Barbet, braque, loulou, danois, des chiens sans nombre errent sur terre. Dog, caniche, pékinois, mastif, roquet ou bien setter. On se souvient de chiens sans nombre, qui ont été de bons compagnons, et l'on vénère encore leur ombre, qu'ils fussent rageurs ou mignons. Je ne dirai rien du dressage, ni des chaînes, ni des colliers. Je préfère les chiens sauvages aux chiens savants ou policiers. Sans m'attarder aux chiens méchants, aux combattants, aux chiens de chasse, je passe les mauvais traitements qui déshonorent notre race. Moi, je m'arrête aux chiens musards, à ceux qui sont les plus fidèles, à la lumière de leur regard, à ceux qui servent de modèle. Car leur exemple est quotidien. Une vie de chien, c'est pas terrible. Un mal de chien, un métier de chien, un temps de chien, c'est fort pénible.
Ouais.
Nous regardons dans cette glace tous les comportements chagrins, le défi, la mauvaise grâce, la vengeance et parfois la faim. Mais que le chien reste injurieux, non, non, ce n'est pas possible. Avoir du chien, c'est très classieux. Mmh. Et le chien fou, c'est irrésistible. Barbet, braque, loulou, danois, des chiens sans nombre affluent sur terre. Domestiqués, souvent fois, et quelquefois, ils sont nos frères.
C'est joli, hein, il y a une tendresse, effectivement, pour le chien.
Oui, on sent que c'est vraiment dans le sens du poil, mais c'est bien fait. Hein.
Est-ce qu'il y a des omissions?
Bah écoutez, il y a une telle quantité de locutions et expressions autour du chien que cet ouvrage oui. a éprouvé le besoin de faire un grand B avec locution et expression.
J'ai jamais vu ça.
Donc il y a forcément énormément de choses.
Alors, des choses notables qu'il n'aurait pas dû oublier.
Les chiens à bois, la caravane passe.
Ah, oui, évidemment.
Qui veut noyer son chien ?
Dit-il à la rage.
Toutes ces choses-là qui sont très très connues. Donc
oui,
on n'avait pas besoin de les entendre sous... Mais il y a une chose très très étonnante dans les chiens, c'est qu'il y a une citation de Jacques Vallée. On se souvient de chiens sans nombre. C'est une citation du poème qui vient d'être
Ah oui, par anticipation.
Ça, c'est...
Formidable. Ah, oui. Non, mais il a beaucoup plus d'influence sur le monde qu'on ne le croit, Jacques Vallée.
Il le croit lui-même.
Cats and Dogs, vous écoutez France Culture. Des papous dans la tête, au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h59, jeu avec les impressifs. Un exercice d'admiration par Jean-Bernard Pouy.
Je me nomme Rurukuruku, je suis un pigeon aussi biset que parisien. Et je voudrais, pendant qu'il est encore temps, et avant que je me fasse aplatir par un autobus, vous parlez de mon perchoir préféré.
Et puis la petite histoire dans une gare d'Île Conseil et l'inventaire des choses qu'on se sent obligé de faire, et il y en a. On se sent obligé, mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne nous dérange pas tant que ça. Vous réfléchissez vous aussi et vous nous faites part de vos expériences. Rubrique commentaires des papous du jour ou sur notre page Facebook. Et maintenant, un petit air du Japon avec Véronique Brindeau et les impressifs. Véronique Brindeau parle le japonais, enseigne l'histoire de la musique ancienne japonaise, traduit certains auteurs japonais, passe beaucoup de temps à Kyoto, sait dire si elle aime le Japon, qu'elle nous fait découvrir à travers certains de ses impressifs ou onomatopées. Dans impressif, il y a impression, bon résumé du sens de ces mots, constitué le plus souvent de deux syllabes doublées. Exemple, Giko Giko, Shin Shin ou Gishi Gishi. C'est avec lui que Jeanne Carillon, Lucas Fournier et Jacques Abertrand jouent aujourd'hui. Ils jouent à lui donner une signification et ils en auraient retrouvé la trace dans certains écrits de grands auteurs. Vous avez dit pastiche ? Mais oui, c'est ça. Bien, Jeanne, Jacques, Lucas, on s'attaque donc à un impressif particulièrement mélodieux à entendre, Gishi Gishi. Est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce, Véronique Brindeau, le son chi comme celui de Chine ?
Gishi Gishi, comme ça se prononce.
Ah non, vous dites Gishi Gishi. Ah, vous mettez un léger steve sur le chi.
Oui.
C'est ça ?
Oui, ça dépend des régions, en fait.
Ah, oui. Très bien. Oui. Bon, moi, je le prononce à la parisienne, Gishi Gishi.
Et en Auvergne, non.
Dans le Cantal, par exemple.
Oui, oui.
Jacques Bertrand, c'est beau, ça sonne bien. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ça sonne.
Ça veut dire
c'est
quoi ?
C'est peut-être pas spécialement harmonieux. Gishi, c'est la respiration haletante du coureur de fond.
Ah oui, oui, c'est pas très très joli, mais en même temps c'est nécessaire,
c'est
quand on court. Hein. Oui.
C'est rythmé, mais c'est...
Oui, ça fait... C'est ça, un petit peu.
Gishi.
On est dans le sport avec vous, Lucas Fournier aussi.
Non, pas du tout. On est dans la vie privée.
Oui. Secret life.
Oui. Donc gishi.
Lui, il a mis le petit cheveu.
Alors,
C'est la gifle aller-retour que reçoit un homme lorsqu'il fait une réflexion sur l'éventuelle surcharge pondérale de la jeune femme, ou pas d'ailleurs, à laquelle il s'adresse.
Uh-huh.
Oui.
Ça fait, ça claque, hein. Donc oui, ça doit être très fort.
Oui, oui.
Aller-retour. Hein.
Aller-retour, mais un seul aller-retour.
Et aller-retour, oui.
Oui.
Ici.
Entre Jacques Abertrand et Lucas Fournier, qui se rapprochent vaguement de guichi-guichi japonais.
Alors, dans les deux cas, il y a un manque d'harmonie évident.
Oui.
Donc, de ce point de vue, les deux camps sont d'accord. Maintenant, si on considère que le bricolage est un sport, il y a quelque chose de sportif dans le guichi-guichi, peut-être, oui.
Mmh. Et plus avec un tournevis, un marteau.
Avec des objets, ou ouais, la manière de s'y prendre avec des objets, plutôt du point de vue d'un bricoleur du dimanche.
Et vous, Jeanne Carillon, vous êtes dans le sport, dans la vie privée?
Oui, c'est assez privé. C'est assez privé. C'est... En fait, on dit être guichi-guichi. Je suis guichi-guichi, tu es guichi-guichi. Alors, c'est un état particulier et ambigu qui agite le corps et l'esprit au moment où on est sur le point de faire une grosse bêtise à laquelle pourtant on n'a aucune envie de résister.
Ah.
D'ailleurs, on est même très heureux de la commettre, cette bêtise, tout en sachant paradoxalement qu'on le regrettera le lendemain matin.
Bah, pas forcément, ça peut être une bêtise du midi.
Du soir, quand même,
ah
vraiment.
Bah... Oui.
Ça peut être de fin d'après-midi.
Oui, ou de fin d'après-midi.
Si ça dure, oui.
Il y a cette notion de bêtise, de bévue, Véronique.
Il y a la notion de conséquence douloureuse d'un acte.
Voilà, oui. Ça c'est très très...
Ah, quand même.
Ah oui.
Enfin, c'est un des aspects du mot, hein, qui est très riche par ailleurs.
On va découvrir si certains écrivains ou musiciens ont laissé des traces de ce guichi-guichi.
Une
dans
petite
notre
note
littérature,
Jacques Abertrand. Joseph Conrad.
Oui.
Ce jour-là, le pont de Verrazzano était fermé à la circulation ainsi qu'au passage des grands transatlantiques pour cause de marathon. Aussi, la rumeur qui nous parvenait n'était qu'un énorme, un immense guichi-guichi qui m'évoquait les prémices des typhons en Malaisie.
Oui, non, c'est pas rien. C'est vrai qu'ils sont des centaines.
C'est lui.
Ils sont des centaines, évidemment.
Il n'y a aucun doute.
Oui. Conrad nous rapproche.
Il est allé au Japon avec son bateau.
Il a voyagé.
Disons que si la catastrophe est plutôt du côté du tremblement de terre que d'une tempête chez Conrad, on aurait davantage la perception sonore du guichi-guichi.
Bah, en même temps, des milliers de marathoniens qui courent dans une ville, ça fait bouger le sol. Hein.
Essoufflé. Oui,
oui, évidemment.
Mais est-ce que ça fait déplacer quelque chose?
Faut voir.
Le pont bouge un peu.
Le pont. Alors, si le pont bouge un peu...
Lucas Fournier, alors votre guichi...
Bah, j'ai trouvé un petit dialogue...
Cet aller-retour.
Oui, j'ai trouvé un petit dialogue de Roland Dubillard. Ouais. Donc, je peux demander à un partenaire de...
Ah, bien sûr.
J'ai toujours rêvé de...
Hervé Letellier dans le rôle de Claude Piéplu, c'est bon, ça bon. Et vous serez Dubillard, Lucas?
Si vous voulez, oui.
Donc, je ne prendrai pas la voix de Piéplu.
Non, vous ne voyez pas.
C'est mon camarade.
C'était juste hommage à...
Ça va, René?
Quinca.
Et la santé?
So-so.
Bah, et ta famille, René?
Plan-plan.
Bon, et le boulot? Ça va, ton boulot, René?
Comme ci, comme ça.
Bah, alors les amours, mon petit René?
Par-ci, par-là.
Et Betty, elle va?
Coup-ci, coup-ça. Hein.
Toujours Gironde, ta Betty.
Bof.
Bon, mais elle te fait des trucs, Betty.
Oui, non.
T'es pénible, René. Il s'est passé quelque chose avec Betty?
Plus ou moins.
Mais t'as fait quelque chose? Crac, crac, banga, banga, guili, guili?
Non. Guichi, guichi.
Bon. J'entends pas bien du billard. Et puis, il là-dedans, mais après tout. Et vous avez été très généreux, Lucas. Vous avez donné le texte le plus long à Hervé Letellier. C'est un très beau cadeau.
C'est un homme de théâtre.
Oui.
Et puis, je sais très bien dire bonga, bonga, gili, gili.
Oui, c'est des mots familiers pour vous. Est-ce que des éléments du dialogue nous rapprochent?
Ah oui, là, on s'est beaucoup rapprochés parce qu'il y a cette friction. Enfin, on sent bien qu'avec Betty, il y a un peu de l'eau dans le gaz quand même.
Eh oui.
Et quand il y a de l'eau dans le gaz, il y a un frottement, une friction, et le guichi-guichi, c'est ça, quoi. C'est quelque chose vous essayez d'encastrer des objets ensemble, ça marche pas. Vous essayez de tirer un tiroir et il coulisse mal.
Voilà, c'est le chaos, donc, quelque part.
Ou la chaise qui grince. Donc c'est petit couinement des choses qui ça ne marche pas bien. Quoi. Ah. Voilà.
Oui, Jacques à Bertrand. Bon, cette notion de tiroir...
C'est le tiroir qui coince, qu'on a du mal à retirer. Donc
c'est un peu le poumon qui n'y arrive plus.
On se met à haleter.
Oui, c'est ça. On ne peut plus respirer.
Non, c'est exactement ça, oui.
C'est précisément. Et alors, une trace littéraire de la poésie, peut-être? Mais,
de la poésie sportive.
Oui.
Antoine Blondin.
Ah bah, voilà, oui.
Après l'arrivée du 10 000 mètres, le stade reprenait son souffle. Mais dans les vestiaires, le guichi-guichi continuait encore pendant de longues minutes. On pouvait à peine s'entendre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours préféré les buvettes aux vestiaires.
Ça, c'est du Blondin.
Ah, exactement, oui. J'aimerais bien savoir, Jeanne Carillon, si vous avez une citation, vous aussi, pour accréditer votre sens sur cette notion de bêtise. Qu'on regrette le lendemain, mais qu'on fait quand même.
Alors moi, j'ai une citation ancienne dans Racine, dans une tragédie méconnue de Racine qui s'appelle Nymphomaque. Donc là, c'est Nymphomaque qui répond à sa servante. « Ah, laisse à mon ardeur le temps de croître encore. Je rêve de ce type et de mille autres encore. Je crains de me connaître en l'état où je suis. Je rougis, je frémis, je suis guichi-guichi.
» Elle prend son pied parce qu'apparemment, il y a beaucoup de pieds en plus. Oui,
non, 12 parfaits. Ah non,
compte. Jeanne Carillon a une théorie sur l'alexandrin.
Une autre en plus, là, alors là.
Une autre encore, l'autre.
C'est ça.
Bon, mais c'est une preuve de générosité, chez Jeanne. Quand on aime l'alexandrin, on rajoute des pieds.
Mais oui, l'alexandrin a le droit de longueur variable.
Exactement.
C'est l'alexandrin drin.
Comme disait une de mes vieilles voisines qui voulait absolument resservir un apéritif, on ne part pas sur une pâte.
Ben voilà. Exactement.
On garde.
Vous la connaissez, sa copine, Jeanne?
Oui, ben oui.
Lucas Fournier, en dehors de Dubillard, qui a écrit sur votre notion de guichi-guichi, cette claque aller-retour?
Jean d'Ormesson.
Non, lui aussi.
Dans son tout dernier livre qui s'appelle « J'ai l'éternité derrière moi ». Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Non, pas encore.
Non, mais... non.
C'était avant qu'il se retourne, c'est ça?
J'ai connu bien des personnages extraordinaires durant ma vie et j'en remercie le bon Dieu. Certes, ma constitution n'était pas des plus robustes, mais les dispositions de mon esprit me conféraient une certaine alacrité dans la conversation qui faisait de moi un convive dont j'ai la faiblesse de penser qu'il était tout à la fois plaisant et sagace. La modestie qui vient avec l'âge me commande d'avouer qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Lors d'un dîner à Saint-Fargeau, chez ma tante Amélie Rohan-Bérissac, j'avais alors 14 ans et une adorable cousine nommée Claude. Comme j'embrassais celle-ci en la retrouvant, je crus spirituel de lui glisser à l'oreille « Ah, ma cousine, vous êtes ronde comme une petite reine, Claude !» Je reçus ce jour-là le premier guichi-guichi de ma jeune existence. Je confesse aujourd'hui qu'il n'était pas tout à fait démérité et je dois dire qu'il n'y en a plus eu depuis.
Oh, mais il était mignon, son guichi-guichi, il est élégant, non?
Il y a quand même un style aérien.
Mais oui. Mais oui, c'est très très joli. Alors on s'éloigne peut-être, Véronique.
Du point de vue de l'acception morale, ou en tout cas atmosphérique du guichi-guichi, on n'est pas très loin, parce que guichi-guichi, c'est tout ce qui coince, qui ne marche pas, les tiroirs, les chaises qui grincent. Mais ça peut être aussi les articulations du corps, vous voyez. Par exemple, c'est nakara guichi-guichi, quand on a le dos tout courbaturé, tout noué, enfin on est quelque chose de crispé dans le guichi-guichi. Et donc cette idée de quelque chose de crispé, on le trouve dans une atmosphère, par exemple. Funikiga guichi-guichi. On n'est pas très content, quoi. Il y a effectivement quelque chose qui ne va pas dans la situation, un malaise.
Est-ce que la geisha-geisha peut aider se débarrasser des guichi-guichi?
Il est préférable de ne pas lancer un aller-retour à une geisha.
Ah non, ça serait un désordre absolu, voyons. Il y a des citations.
Alors, on trouve une citation chez Seishonagon, dans ses notes de chevet. Seishonagon écrit, bien sûr, à l'encre de Chine, donc elle doit frotter son bâton d'encre de Chine sur sa pierre d'encre. Il arrive que parfois il y ait
y a un petit élément qui est malvenu dans la pierre d'encre. Ça peut être un cheveu ou un caillou, par exemple. Et ça, c'est très désagréable quand on veut écrire. On trouve au chapitre des choses détestables. Suzurini camino ilite suraretaru. En frottant le bâton d'encre de Chine sur la pierre de l'écritoire, on rencontre un cheveu qui s'y est introduit. Mata sumino nakani ishi no gishigishi to kishimi naritaru. Ou encore un petit caillou était caché dans ce bâton d'encre, il grince gishigishi.
Et oui, ça peut être une chose toute petite.
C'est un peu comme le scrupule, en fait. C'est le petit caillou dans la chaussure qui vous gêne, qui fait cette petite friction douloureuse.
Et en dehors d'elle, quelqu'un a écrit au Japon sur le gishigishi, oui, je suppose. Mais vous n'avez pas tout lu.
Ah oui, c'est vrai, je n'y pensais pas. Mais c'est vrai, je suis loin d'avoir tout lu. Mais c'est une expression qu'on n'emploie pas seulement quand on frotte sa pierre d'encre, puisque maintenant on tape plutôt sur un clavier. Mais il y a toujours des tremblements de terre. Et quand la maison tremble, on entend des petits craquements, hein, comme le pont. S'il y a un marathon, j'imagine qu'il fait aussi quelques bruits. Et donc pendant un tremblement de terre, on peut dire « Jishi no toki, iega gishigishi iu ». La maison craque un peu, gishi-gishi.
Et si quelqu'un fait craquer ses doigts, vous savez, moi j'y arrive pas, mais il y a des gens qui sont très énervants, ils font craquer leurs doigts. On dira gishi-gishi.
Je n'ai jamais été confrontée à une telle situation.
Non.
Au Japon, on ne fait pas craquer ses doigts. Ça ne se fait absolument pas.
Ça se chante, le gishi-gishi. C'est présent dans les chansons japonaises traditionnelles ou modernes.
En tout cas, au XIe siècle, on n'en a pas de traces. Non,
pas du tout. Non. Pas du tout. Et dans des adaptations de chansons françaises,
Je fais clichy.
C'est ça le poissonneur des lilas.
Mademoiselle de Paris, opéra nobuto kaino, seki na doresu wo nu sore ga ano ko no shigoto yo, Mademoiselle de Paris. Orane, goran, kawaii, ano mizinetto.
King Twin, Mademoiselle de Paris. Retour sur Monsieur Pouy, sorti de ses habits de Napoléon. Jean-Bernard Pouy, il n'aime pas les tièdes, les coincés, les poètes, comme il dit. Et il ne mâche pas ses mots. Il y a des choses, des œuvres, des gens qui le crispent. Il déteste, par exemple, les comédies musicales. Mary Poppins lui donne des boutons. Il n'aime pas Truffaut. C'est son droit. Côté Nouvelle Vague, il admire Godard, tout Godard. Et ne manque pas d'en parler dès que l'occasion se présente parce que c'est un homme généreux, Jean-Bernard Pouy. Quand il admire, il le fait aussi avec force. C'est pourquoi il a tout de suite répondu oui à ma proposition d'exercice d'admiration. Alors dites-moi, Monsieur Pouy, c'est comme ça qu'on vous appelle affectueusement au papou, Monsieur Pouy, vous admirez qui ou quoi à l'instant précis ?
Je ne suis pas Monsieur Pouy.
Vous êtes qui ?
Je me nomme Rurukuruku, je suis un pigeon aussi biset que parisien. Et je voudrais, pendant qu'il est encore temps, et avant que je me fasse aplatir par un autobus, vous parler de mon perchoir préféré.
Ah oui, ça c'est une belle idée.
Il est de bronze, et surtout le regard. Dur, mou et vert à la fois. Il est debout et à tout jamais stable, rigide sans l'être, chair et métal à la fois, statufié selon les statiques statues de la statuaire, une des plus belles ombres érigées de Paris. Et tant pis pour celui qui lui fait une ombre portée. Le matin, ce génie surfait de la Bastille, doré sur tranche, étoile au front et ziquette au vent, portant d'une main, comme un goupillon à vaisselle, cette flamme qui ne brille plus depuis longtemps, et de l'autre, cette chaîne brisée, signifiant à chaque Parisien qui gare son scooter dans les parages de ne pas oublier de mettre l'antivol. Voilà. Alors, du génie à l'argent de la tour, je préfère le bronze de Beaumarchais, qui tourne ostensiblement le dos à la rue des Tournelles, où les gitons d'Henri III se fritaient la rapière avec d'autres nobliaux tout aussi rétrogrades, Beaumarchais qui semble refuser, d'un léger dédain d'épaule, son propre boulevard. « Ta gueule, Haussmann » a-t-il dit. En souriant, le seul qui sourit encore après une décennie de révolution, tête un peu penchée, mais oui, moi j'y suis bien. Bras croisés, la canne à la main, vaguement prêt à bastonner celui qui voudrait lui tirer les oreilles. Car il en a vu des gugus, le Beaumarchais, avant de maintenant contempler tous ceux qui lui passent sous les baskets sans même lever le museau. Et pas des moindres, les filles de Louis XVe, auxquelles il tentait d'apprendre l'art subtil de la harpe, les braconneurs des terres royales auxquels il imposait l'art brutal de la punition, le juge corrompu auquel il fit découvrir l'efficacité d'éloquence, et tous ces banquiers auxquels il dut sûrement faire paumer un paquet de pognon. Il a vendu des armes, comme Arthur, édité Voltaire, et créé la Société des auteurs, et tous les ceux qui touchent leurs droits en fin de mois devraient venir lui baiser les pieds. Des arpions qu'il a d'ailleurs très grands, et des godasses qu'il porte un peu avachis. Personne ne l'aime, même pas le roi, qui tente d'interdire que son Figaro se marie. Pas même la Révolution qui l'inquiète. Regardez-le, les coudes repoussent un peu la jaquette élimée, découvrant un gilet mi-long aux poches plates et vides. Il a tout perdu, mais il s'en moque. Il regarde le feu rouge en souriant. Moi, Roucou-Roucou, j'y vois un symbole. La veste découvrant ces hautes choses de soie qui plissent aux genoux, tous ces boutons qui s'entrechoquent, bronze frêle et aérien, matière quasi transparente, révélant, à travers le muscle encore dur de l'ancien agent secret, la cuisse alerte et bombée de l'aventurier tout azimut, une jambe en avant, prêt à descendre dans la rue. Mais où irait-il s'il descendait, ce beau marcheur? Pas vers la rue de Lesdiguières, un zozo spécialiste du retournement de pourpoint, pas vers la rue Castex, le seul militaire célèbre pour avoir été dégommé à Austerlitz, ça vaut bien une rue. Non, plus sûrement vers la rue du Petit Musc, une ancienne rue à matrone tarifée, les Petits Muses, comme dit l'historien. Ou bien alors vers un de ces magasins de sapes, vérolant le quartier, car il faut bien le dire, le pauvre Beaumarchais est fringué à la va comme je te pousse. C'est vraiment n'importe quoi, ambiance fripe. On ne sent pas, malgré la perruque à la Louis XV, le catogan un peu défait et les bas brodés, le goût pour la parade et le décorum du courtisan moyen. Mais il s'en moque. Il s'est habillé à la va-vite. Les dentelles au poignet ne semblent pas très nettes. Il est prêt à repartir. Pour refaire une connerie, peut-être, en tout cas, quelque chose qui ne redorera pas son blason. Car il n'est pas parfait, le beau marcheur. Ce n'est pas l'exemple à donner aux générations futures. Sa statue est presque à ras du sol, à peine 3 mètres. Près des hommes faillibles, pas aux cieux, comme l'autre génie doré. Et même s'il sourit, Beaumarchais, du rictus cynique de ceux à qui on ne l'a fait pas, c'est qu'il s'embête sur son piédestal taillé au cordeau. Il se rase autant que son barbier. Il voudrait bien retremper dans ce Paris qu'il a vu naître et qu'il verra s'éteindre dans le bourbier de Séville. Voilà, le sculpteur, c'est un dénommé Clausade, et moi, c'est Roucou-Roucou.
Mais alors vous, cher Roucou-Roucou, vous vivez là avec votre petite famille ?
Non, tout seul.
Tout seul, évidemment.
Parce que quand je veux un peu de repos, je me mets sur la tête de Beaumarchais.
Ah oui.
Et je sens les pensées monter. Oh. Très agréable.
Ecco il 1909, che bell'anno sta per cominciar, con un sacco di scoperte nuove che ci servono meglio a campar. C'è il telegrafo che senza fili, c'è il fonografo che a mano va, e ci sta la ferrovia, c'è pur la fotografia, c'è persino l'elettricità. Che bellezza, che bel secolo che questo qua. Per i futuri 100 anni, niente più malanni, niente più tiranni, perché c'è la civiltà. Ecco il 1909, che bell'anno sta per cominciar, un milione di esperienze nuove, tutto il mondo ha intenzione di far. Le signore vogliono fumare e i signori vogliono volare. E io stesso lo confesso, me ne trizzo col progresso, ma che bella la modernità. Le signore vogliono fumare e i signori vogliono volare. E io stesso lo confesso, me ne trizzo col progresso, ma che bella la modernità.
Rita Pavone, toute une histoire en SMS. C'est Odile Conseil qui raconte sa vie en texto. Elle est très mobile, Odile. Enfin, Odile, son personnage du moment. Vous faites les présentations ?
Je suis une jeune femme qui envoie un SMS à son chéri, qui s'appelle Jérémy, parfois appelé Gégé. Vendredi 17h, écrit depuis le métro. Mon amour, j'ai oublié mon livre. Tu peux le prendre avant de me rejoindre à la gare ? En prenant le sac, n'oublie pas d'y mettre le pique-nique, il est au frigo. 2 minutes plus tard. Du côté de chez Swan, je t'ai dit que je relisais la recherche, il est sur ma table de nuit. Ou sinon dans le porte-revue aux toilettes. Ou peut-être que je l'ai déjà mis dans le sac. 2 minutes plus tard. Ben oui, j'ai pris 3 paires de chaussures, il faut bien ça pour le week-end, non ? Si tu trouves que le sac est trop lourd, laisse ton ordi à la maison. Je t'attends voiture 15, place 43. 6 mois plus tard, un vendredi, 17h environ, écrit depuis le métro. Mon Gégé, j'ai oublié mon livre. Tu peux me l'apporter en me rejoignant à la gare ? En prenant le sac, n'oublie pas d'y mettre le pique-nique, il est au frigo. 2 minutes plus tard. Les jeunes filles en fleurs. J'ai fini Swan il y a 2 jours. Il est sur ma table de nuit ou sinon dans le porte-revue aux toilettes. Ou peut-être que je l'ai déjà mis dans le sac. 2 minutes plus tard. Ben oui, j'ai pris 3 vestes. Il faut bien ça pour le week-end, non ? Si tu trouves que le sac est trop lourd, ne prends pas tes clubs de golf. Je t'attends voiture 6, place 17. 6 mois plus tard, un vendredi, 17h, écrit depuis le métro. Gégé, j'ai oublié mon livre. Tu peux le prendre avant de me rejoindre à la gare ? N'oublie pas de mettre les sandwichs dans le sac. Ils sont au frigo. 2 minutes plus tard. Le côté de Guermantes, tu sais bien, il est sur ma table de nuit. Ou sinon dans le porte-revue aux toilettes. Ou peut-être que je l'ai déjà mis dans le sac. 2 minutes plus tard. Ben oui, j'ai pris 4 pulls et mes après-ski. T'as vu ce qu'ils annoncent à la météo ? Si tu trouves que le sac est trop lourd, ne prends pas tes raquettes. Tu pourras en louer là-bas. On est voiture 12, place 95-96. 6 mois plus tard, un vendredi, 17h, écrit depuis le métro. J'ai oublié mon livre, tu peux me l'apporter ? 2 minutes plus tard. Sodome et Gomorre, il est sur ma table de nuit ou sinon dans le porte-revue aux toilettes. Ou peut-être que je l'ai déjà mis dans le sac. 2 minutes plus tard. Ben oui, j'ai pris 4 bocaux de confit. C'est pour les remercier de nous inviter si souvent. Si tu trouves que c'est trop lourd, prends un taxi pour venir à la gare et emporte la corde à sauter que je viens de t'offrir pour rester en forme. 20 minutes plus tard. Qu'est-ce que tu fous ? Le train part dans 5 minutes. 1 minute plus tard. Un limbago en soulevant le sac ? C'est pas vrai, tu le fais exprès. Et là, est-ce que je pars quand même ou est-ce que je redescends du train ? Suspense.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, l'inventaire. Le sujet du jour a été défini par Dominique Muller. Elle propose de mettre en commun avec Lucas Fournier, Odile Conseil, Eva Almassy et Jean-Bernard Puy toutes ces petites choses qu'on se sent obligé de faire et qui embarrassent, alors même qu'au fond, elles ne nous déplaisent pas tant que ça. C'est ambigu. Dominique Muller, à vous d'ouvrir la liste, puisque c'est votre sujet.
Au début, je sortais en pyjama dans la rue uniquement pour jeter mon sac poubelle dans le conteneur de mon immeuble, sorti devant une entrée qui n'est pas la mienne, passons. Bref, je filais comme une flèche. Mais je ne sais pas comment ça s'est fait petit à petit. Maintenant, je vais aussi en pyjama à la boulangerie, ou chez Poon, le chinois du coin. Les gens habillés, si ça leur plaît pas, je m'en moque. Je pense que je vais pousser jusqu'au kiosque sur le boulevard.
Lucas Fournier, ça vous arrive ?
Moi, je me sens obligé de finir les livres que j'ai commencés, même si je ne les aime pas. Sinon, j'aurais l'impression de gâcher.
Mais par rapport à vous-même ?
Oui.
Pas par rapport aux autres ?
Ah non.
Oui, évidemment. Odile Conseil.
Signaler à son voisin ou son vis-à-vis, par exemple, dans un dîner en ville, qu'il a un morceau de persil ou un bout d'épinard coincé là, entre les incisives.
Non, il ne faut pas le dire.
Bien entendu, tout le monde l'a vu à table, mais il faut bien que quelqu'un le lui dise, ouais. C'est charitable. Ouais. Et moi, je me dévoue.
Ah non, il ne faut pas.
Je suis très
je vous assure, il ne faut pas. Jean-Bernard, si. Oui.
À chaque fois que je prends l'avion, c'est en passant sous le portique de sécurité... Je suis marri d'avoir à enlever ma ceinture. Et donc de passer de côté en tenant mon pantalon, parce que je les aime larges, je n'aime pas les pantalons collants, pour éviter qu'ils tombent à mes pieds. Alors avec dans une main la ceinture, les godasses quelquefois, si on les enlève, la veste et la valise, on se sent quand même extraordinairement ridicule.
Oui, c'est pas faux. Oui.
Parfois, et même souvent, dans la file d'attente d'un bureau de renseignement, une gare, une poste, une administration, je m'aperçois que je viens de passer un long moment devant le mauvais guichet, ou que je n'ai pas pris de numéro. Je n'ose jamais expliquer la situation à ceux qui sont arrivés après moi au bon endroit, et je me mets derrière, qu'est-ce que vous voulez ?
Modestement, les cas.
Moi, je me crois toujours obligé de faire semblant d'écouter la personne qui me parle, en hochant la tête avec un demi-sourire, alors que je ne sais même pas de quoi il est question, et je dois maîtriser mon expression pour que l'illusion de mon attention soit totale. C'est encore plus difficile, finalement, que d'écouter la personne.
Ça m'arrive tout le temps. Odile.
Face au nouveau-né horrible d'une amie ou d'une connaissance à qui on réussit après la naissance, réussir à s'exclamer d'un air enjoué « Qu'est-ce qu'il est chou, qu'est-ce qu'elle est mignonne !» ou sinon chercher désespérément un truc à dire genre « Oh, ses mains, tu as vu comme ses doigts sont grands, tu en feras un pianiste, c'est sûr. »
Jean-Bernard.
Les séances au lavomatique. Alors, attendre devant la machine à laver comme si c'était une télévision, assis à côté de quelqu'un qui est dans le même mental que vous, et surtout, quand vous ouvrez la porte du tambour et qu'un slip ou une chaussette tombe à terre, il faut ravaler sa gêne, voire sa honte, pour les ramasser.
Bah, si le slip est en bon état, c'est oui, pas, c'est pas incorrect.
Apparemment, c'est vivé, c'est facile.
C'est quand même l'intimité dévoilée.
Il peut avoir un élastique qui godaille et tout. Dominique.
Humer les livres dans une librairie, les choisir pour de mauvaises raisons, couverture ou titre attrayant, c'est un vrai plaisir. Malheureusement terni par mon libraire. Passionné par son métier, il me conseille toujours des romans sérieux sur des sujets graves, Shoah, Goulag, Apartheid, femmes bafouées, que j'achète pour ne pas le vexer et avoir l'air intelligent, sachant que ça va encore me tomber des mains.
C'est la même adresse.
Oui, on connaît. Oui.
Les cas.
Moi, je me sens obligé de ne jamais être enthousiaste, comme si quelque chose me retenait.
J'ai remarqué
mais
ça.
Mais je ne sais pas quoi.
Eh bien, faites un effort, Lucas.
Ben
ou une analyse.
Oui. Vous avez été invité à dîner chez des amis que vous ne connaissez pas très très bien. Et au moment de prendre congé, arrive le moment où il faut, par conviction ou politesse, rendre l'invitation. Voire la vomir, dans mon cas, en disant « Il va falloir que vous veniez à la maison ce jour. » Alors que vous n'en pensez absolument pas un mot.
Oui. Mais déjà, rien que dans le « il va falloir », l'autre sent bien oui, que c'est fichu. Dominique.
C'est rare, mais il advient qu'on m'invite à lire des extraits de l'un de mes propres livres. Et me voici assise à cabotiner, à mettre le ton, à essayer d'emporter la sympathie de mon auditoire, tandis que je me demande si c'est vraiment moi qui ai écrit ça. C'est une imposture, avec un grand « i ». J'ai l'impression qu'on va me chasser manu militari.
Restons dans les grands écrivains, justement.
Oui.
Moi, depuis quelques mois, je me sens obligé de lire tous les auteurs que j'aurais dû lire avant. Balzac, Mauriac, Jules Renard. Oui. Eh bien, franchement, c'est aussi bien qu'Amélie Nothomb, Carrère ou Houellebecq. Hein.
Eva.
Longtemps, je me sentais obligée d'écouter la radio le matin, voire mettre un radio réveil et me gaver d'informations de politique pour m'apercevoir, il n'y a pas si longtemps, que ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin, très vite, sur Internet, je regarde quand même si quelque chose s'était passé pendant la nuit, mais ça me suffit. Et maintenant, je me fais réveiller avec ce qu'on appelle un simulateur d'aube. Un réveil qui progressivement s'allume et me fait de la lumière dans la chambre.
Ah bon ?
Oui.
Mais si tu laissais les volets ouverts,
c'est
ce serait
que j'allais
pareil.
Dire, oui.
Ah bah, je ne veux pas me réveiller à 8h10 actuellement, mais à 6h.
Il y a 4h du matin en été.
Jean-Bernard.
Laisser dans le bus ou le métro sa place, enfin ma place, à quelqu'un qui est plus jeune que moi, mais qui paraît beaucoup plus vieux aux yeux des autres. Je sais qu'il est plus jeune que moi.
Mais la technique, c'est de regarder résolument par la vitre.
D'avoir un bouquin.
Et voilà. Jamais regardé. Aux stations.
L'égoïste.
Quand j'étais petite, j'étais déjà crâneuse. Je racontais des craques. Mais la pire, celle qui m'a poursuivie, a été de m'inventer un petit frère.
Je n'aimais pas être enfant unique et voilà, c'est sorti comme ça. J'ai dit à Mademoiselle Quebel, ma prof de piano, que j'avais un petit frère. Pendant des années, ça a été horrible. Je mourais de peur que cette vieille bique demande de ses nouvelles à ma mère. Quel soulagement quand j'ai réussi l'examen pour la classe de Monsieur Pogoda.
Lucas.
Je me sens obligé d'aller fleurir mes tombes à la Toussaint, alors que ça ne sert à rien, mais j'ai dans la tête les vers de Baudelaire de la servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse. Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Voilà. Depuis l'âge de 15 ans, ça me poursuit.
Parler des vers de Baudelaire, c'est adapté.
Fleurir quand même, hein, déjà.
Mais c'est joli, on ne peut pas laisser des tombes sans fleurs, c'est triste.
Je ne sais pas pourquoi, au lieu de dire que l'art contemporain me passe au-dessus de la tête, je me laisse entraîner dans des expos par des amateurs avertis qui veulent savoir ce que j'en pense. Oh misère, j'en pense rien, mais alors, absolument rien. Mais ça ne m'empêche pas d'entamer un discours conceptuel aux petits oignons. Ce que j'en pense vraiment, que l'être et le néant, c'est kiff-kiff bourricot.
La musique contemporaine me fait cet effet
ben, oui,
aussi.
C'est la danse contemporaine aussi.
Oui,
hein.
Oui.
Et le vin me fait cet effet, parce que je me sens obligé d'avoir un avis sur le vin quand on m'en propose et de l'exprimer. Je n'en ai aucun. Je me contente de dire, il est un peu tannique. C'est à peu près tout ce que je peux dire.
Oui, mais vous ne buvez pas de vin, d'ailleurs. Vous n'aimez pas ça, oui. Eva.
Ça, c'est une chose que je ne fais pas pour les autres, mais pour moi. Et donc, je me sens obligée de bien manger, de ne manger que les meilleures choses, bio, cru, pas de farine blanche, pas de lait de vache, pas de sucre blanc surtout. Oh, ça s'appelle l'obsession de manger sainement, orthorexie. Je suis devenue une vraie extraterrestre.
5 fruits et légumes hein, aussi, vous savez ça, Odile.
Dire très vite à la jeune femme qui, au téléphone, a commencé à vous vanter des fenêtres en aluminium ou vous propose une séance gratuite dans le nouveau centre de bien-être juste à côté de chez vous ou qui vous incite à prendre un nouveau forfait téléphonique encore plus avantageux ou mieux encore, avant même qu'elle ait dit quoi que ce soit, parce que le seul fait que quelqu'un vous appelle sur votre téléphone fixe signifie qu'on veut vous vendre quelque chose, lui dire donc que vous avez bien conscience qu'elle fait un métier difficile, ingrat, sans doute démoralisant, mais que vous souhaitez qu'on vous foute la paix et bonsoir mademoiselle et raccrochez avant qu'elle ait eu le temps de dire ouf.
Voilà. Dominique, allez.
Je prétends connaître, bien sûr, tel livre, tel film ou tel opéra qui serait honteux de ne pas connaître, car je n'aime pas passer pour une andouille. Je ne me contente pas de sourire d'un air entendu dans un silence qui risque de mettre la puce à l'oreille de l'autre. J'invente une scène, un personnage ou un air que j'affirme préféré dans l'œuvre et toc, c'est l'autre qui a honte de ne pas le connaître.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an, c'est le fameux podcast. À réécouter 1000 jours à la page des papous sur le support de votre choix. Page des papous qui vous accueille pour poster vos remarques, questions, demandes, rubriques, commentaires. Pour les renseignements concernant l'enregistrement public des papous à Marseille, direction la vie du club ou notre page sur Facebook. On se retrouve dimanche à 12h50 et on quitte le studio vite, vite, vite pour laisser la place au regardeur de Jean de Loisy. C'est dans quelques instants. Passez un très bel après-midi à l'écoute.
Quoi, quoi? Ah!